Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Claire Chantreau, je suis post-doctorante et je viens de finir ma thèse au laboratoire Edithème. Et aujourd'hui, je vous parlais de cailloux rouges et de la collection de références qu'on constitue dans le cadre de la pigmentothèque, et qui est en fait une petite sœur des lithothèques siliceuses qu'a présenté tout à l'heure Céline. Donc je la remercie d'ailleurs pour cette présentation parce que ça plante bien le décor. Donc moi je me fais porte-parole un peu du groupe qui travaille sur la pigmentothèque, et je sais qu'il y en a qui sont l'assistant, donc éventuellement ils pourraient en répondre aux questions aussi à la fin. Alors la pigmentothèque, en fait, elle a pour objectif en partie de contribuer à la restitution des chaînes opératoires des matières colorantes, alors à la préhistoire, paléolithique, depuis en fait les sites de collecte de la matière colorante, jusqu'au site de consommation et de rejet, alors, bien sûr en passant par les ateliers et les sites de transformation de cette matière colorante. Dans le cadre, moi, de mon travail de thèse, je m'intéresse surtout aux matières riches en fer, mais la pigmentothèque, c'est aussi une lithothèque qui veut documenter les ressources en manganèse également. Donc, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à singulariser les matières colorantes pour documenter cette chaîne opératoire durant le paléolithique. Donc, en fait, ça passe par discerner des matières colorantes, donc directement sur site, donc dans les séquences archéologiques. Alors ici, en fait, il y a une illustration, c'est un amas de matières colorantes dans les sédiments de Régis-Montlaud. Donc il y a un site d'habitat de plein air aurignacien dans le sud de la France. Et donc, où en fait, si on n'a pas l'œil exercé forcément à la reconnaissance de ces matières, on peut passer à côté. Donc ça, c'est un comment dire, des objectifs qu'on se fixe, c'est former l'œil des
Claire,
techniciens. Et... Oui?
excuse-moi, tes diapositives ne passent pas en fait, on est toujours sur la première diapo.
Alors attends.
C'est pas Régis, moi.
Ah, c'est pas Régis, mon pardon. Alors. Mince, j'ai perdu le. Il est où? Le zoom. Il est là-haut. Si je change. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce qu'on a changé de
Oui,
diapo?
c'est bon.
Ok. Est-ce que si cette fois-ci... Pardon. Hop.
Sinon, tu peux rester.
Ok. C'était bon
Oui,
là?
non, c'est bon,
Oui.
ça
Ouais,
marche.
ok.
Parfait.
C'est la
Désolé.
petite subtilité de zoom. Oui, donc pardon. Donc, en fait, l'image en haut, donc c'est le fameux amas de matière, un petit bloc de matière colorante, pas forcément facile à discerner dans le sédiment archéo. Donc, en plus de savoir discerner, donc d'identifier les matières sur site, il faut aussi savoir les reconnaître, donc les rattacher à un grand type de roche, donc un grand type de roche, et donc les rapproché à une genèse géologique. Et ça, pardon, ça va passer aussi par savoir nommer en fait ces roches, et en utilisant un lexique adapté. Donc ça fait partie d'un travail qui est réalisé par des collègues géologues, minéralogistes. Et donc on a des petites blagues justement sur est-ce que c'est de l'ocre ou est-ce que ça n'en est pas. Et en fait, vraiment apprendre à faire la distinction entre les minéralogies et les différents types de roches. Et donc tout ça conduit effectivement à construire une lithothèque spécifique pour les matières colorantes. Alors, les roches ferrugineuses, il y en a une diversité assez importante, qu'on distingue en trois grands types de formations qui ont conduit à la concentration en fer. Donc on a les roches sédimentaires. Alors attendez, est-ce que je vois plus mes diapos? Ah. Donc oui, donc il y a les roches sédimentaires, marines ou lacustres. On a les formations magmatiques qui se présentent sous la forme de filons hydrothermaux qui remontent depuis le manteau terrestre et qui viennent imprégner en fait, les roches superficielles. Et enfin, on a les altérations de surface qui sont liées à une activité biologique ou surtout à la circulation d'eau en surface. Donc ça emmène en fait à la fois à la présence de différents types de roches à l'affleurement et comme le présentait Céline tout à l'heure avec la chaîne évolutive qui a été présentée par Paul Fernandez et ses collaborateurs, en fait ça va emmener à une mobilisation dans l'environnement des roches d'un point de formation à des points où ils sont disponibles à la collecte. Donc en fait, c'est aussi ça qu'on documente dans la pigmentothèque pour avoir un référentiel assez exhaustif de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut trouver pour la collecte de ces matières. Alors la pigmentothèque, elle est implantée dans le sud-est de la France, mais elle s'élargit petit à petit. Elle est donc partie surtout du sud-est parce qu'il y a une concentration à la fois en site archéologique du paléolithique mais aussi du néolithique. Alors ça peut être des sites d'habitat de plein air, des sites avec de l'art pariétal. Et ces sites-là s'inscrivent dans un paysage géologique minéral en fait, qui est extrêmement diversifié comme je viens de vous le présenter. Dans le cadre de la pigmentothèque, on a mené un certain nombre de campagnes de prospection afin de, ben voilà, de collecter ces références de matières riches en fer. Donc là, c'est une carte qui vous présente un peu les points de collecte dans le bassin versant de l'Ardèche, avec les différents types de grandes formations géologiques qui peuvent être collectées. Donc ça nous emmène aussi cette discussion entre matière colorante en contexte archéologique et matière géologique qui sont présentes dans la lithothèque, en fait, à faire des allers-retours pour questionner et répondre un peu aux interrogations qu'on se pose sur l'identification des matières archéologiques. Donc ça, en fait, ça suppose des allers-retours entre différentes échelles d'observation, avec des observations sur des blocs de matières colorantes trouvées dans les sédiments, mais aussi des résidus, on appelle ça résidus, donc des poudres, appliquées sur des parois ou sur des blocs par le biais de diverses activités. Donc c'est là où en fait les standards, les références géologiques vont venir nous apporter des informations sur à la fois les caractéristiques, on va dire, générales des roches, mais aussi sur les caractéristiques micromorphologiques. Donc c'est là où on s'est restreint un peu sur six matières particulières que nous on a appelées standards, mais qui sont en fait des standards internes au projet et qui vont nous permettre en fait d'avoir une reproductibilité des mesures quand on fait plusieurs sessions d'analyse sur un même instrument. Ces matières en fait vont aussi être le pivot des comparaisons entre des lots de mesures, donc là pas forcément sur un même instrument, mais aussi d'aborder la compréhension en fait de la minéralogie et de la géochimie des roches archéologiques auxquelles on va être confronté, et enfin d'appréhender la fiabilité des mesures géochimiques qu'on va pouvoir obtenir avec différents instruments sur les éléments traces, mais aussi sur les éléments majeurs et les uns par rapport aux autres. Donc en fait, qui sont ces six standards et qu'est-ce qu'on fait avec? Alors on a choisi six standards qui sont en réalité six roches, qui sont des bons représentants en fait de la grande famille de roches à laquelle ils appartiennent, et qui sont répartis un peu partout sur le territoire français et même belge. Le premier donc, dont je vais vous parler, qui est une oolite ferrugineuse qui a été collectée en Belgique, donc à Huy. C'est une roche qui présente une composition de l'ordre de 40% en en oxyde de fer et 25% de calcium. Ensuite, on a taute qui est qui est un calcaire décarbonaté et imprégné de fer, qui lui présente une composition en fer de l'ordre de 75%. Ensuite, on a pierre morte qui se trouve de lui dans le sud de la France, qui est un calcaire en fait imprégné de fluides hydrothermaux et qui a une composition de l'ordre de 35% en fer. Bordezac, qui est un peu la star de ces six références, parce que c'est un de ceux qui présente les plus fortes teneurs en fer avec 75% de Fe2O3, qui a assez peu d'autres éléments associés en termes de minéralogie. Pareil, qui se trouve dans le bassin versant ardéchois, assez proche du calcaire de pierre morte. Enfin, on a casoule, qui est une bauxite, donc c'est une altération de surface qui a concentré le fer dans des proportions qui sont de 40% environ. Et pardon, je finis sur une ocre. Donc là, c'est une vraie ocre, donc une altération d'un grès glauconieux à Roussillon, et qu'on connaît en général assez bien, enfin qui sont assez connus. Donc en fait, ces six standards ont été choisis parce qu'ils sont très différents à la fois en minéralogie, à la fois dans leur teneur en fer, et qui en fait représentent relativement bien la diversité des matières ferrugineuses qu'on peut trouver à l'affleurement un peu partout. Ce qu'on va essayer de documenter là-dessus, c'est donc leur minéralogie qui ont fait l'objet de description, mais aussi donc leur géochimie. À la fois les affinités des éléments majeurs et traces avec le fer et des rapports élémentaires qu'on peut avoir entre ces éléments. Donc là, je vais vous présenter uniquement un travail que j'ai fait pendant ma thèse sur la composition géochimique de ces standards et de comment on peut l'utiliser en fait pour créer un espace probabiliste, donc on peut appeler ça un référentiel, en fait, qui permet de distinguer ces roches qui sont très, on va dire, qui sont très marquées. Pour ça, avant de faire des analyses discriminantes, j'ai travaillé sur des rapports élémentaires au fer, donc des simples biplots 2 à 2. J'ai regardé comment se comportait le plomb par rapport au fer, l'antimoine, etc. Et j'ai réussi à en identifier quelques-uns qui semblaient en fait être vraiment liés au fer. Donc l'idée, c'est de garder une réalité géologique, minéralogique, dans le traitement des données de composition. Donc ça, en fait, quand on travaille sur les roches sédimentaires et d'altération de surface, en fait, ça marche assez bien, puisqu'on arrive à identifier une dizaine d'éléments qui sont liés vraiment à la genèse de la matière et qui permettent de les discriminer de manière relativement efficace dans une analyse discriminante linéaire. Donc là, on explique à peu près un peu plus de 60%, même 70% de la variabilité des matières, en fait, des signatures géochimiques entre les matières. Alors, ça se complique un peu quand on travaille sur des références qui proviennent d'un même bassin, on va dire, géologique, et qui dont le fer est issu d'un processus de minéralisation relativement similaire. Donc là, on parle de Bordezac et de pierre morte. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la carte que j'ai présentée, mais en fait, ils sont très, très proches. Donc, Bordezac, c'est vraiment une veine hydrothermale où le fer s'est concentré de manière importante, à la différence de... Et cette veine hydrothermale, elle est présente dans un grès, alors que pierre morte, là, c'est plutôt une ferruginisation d'un calcaire, mais probablement issu du même phénomène de remontée de fluide. Et donc, en fait, on a beaucoup plus de mal à les distinguer l'un de l'autre, parce qu'ils sont marqués par par les mêmes éléments, et donc le même événement géochimique. Donc, Bon, là, en fait, on se dit que finalement, notre référentiel n'est pas trop mal construit. On a plutôt bien choisi nos six standards, si ce n'est ce petit bémol sur les deux références ardéchoises. Alors, pour essayer, j'ai retiré les roches sédimentaires et les altérations de surface et je n'ai gardé que le calcaire de taute pour voir si on arrivait en fait à discriminer ces deux roches issues de l'hydrothermalisme. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, quand on compare un peu ce qui est comparable, donc deux roches issues de l'hydrothermalisme, on arrive à les distinguer par des rapports d'éléments traces sur le fer. Ça reste très exploratoire pour l'instant parce qu'en fait, on a assez peu de données sur ces roches hydrothermales, mais en rajoutant des références aussi issues de l'hydrothermalisme, je pense qu'on devrait arriver en fait aussi à les discriminer, donc ce qui est plutôt positif. Donc pour conclure, ce qu'on a réussi à faire avec la pigmentothèque, c'est donc d'avoir un référentiel géologique qui est riche, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références. Là, à l'heure actuelle, on dépasse, il me semble, les 250 points d'échantillonnage un peu partout sur le territoire, donc ça va du sud-est de la France à la Bourgogne et même la Belgique. Et ces références, elles ont la force en fait d'être très bien do documentées, à la fois d'un point de vue géographique, mais aussi minéralogique, parce qu'elles ont fait l'objet de descriptions pétrographiques. Ensuite, le travail qu'on a fait sur les six standards internes au projet en fait, ont permis de mettre en évidence la possibilité de faire la différence entre les différents types de roches. Par exemple, des altérites de surface, par exemple entre les ocres et la bauxite, comme sur différents types de fluides hydrothermaux qui ont imprégné des calcaires ou des roches sédimentaires. Ensuite, on est assez contente, je dis contente parce qu'on est plus de femmes à travailler dans la pigmentothèque. En fait, on a des standards maintenant qui sont régulièrement utilisés sur différentes machines. Donc là, j'ai présenté des données pixées, mais en fait, il y a aussi eu des analyses ICP et bientôt des analyses en activation neutronique. Et donc, ils sont pour l'instant des standards internes au projet, mais qu'on cherche vraiment à partager et qui ont commencé déjà à circuler. Donc, il y a des échantillons dans plusieurs laboratoires en France. Ensuite, on essaye aussi de partager les protocoles d'analyse et de traitement des données de composition. Et donc, il y a des jeux de données qui sont disponibles en ligne sur des répertoires en open access. Et enfin, on essaye de mettre vraiment l'accent sur le partage des références géologiques et des données qui en sont tirées au travers de rapports d'activité, donc des données qui sont mises à disposition en ligne et aussi par le biais de partage d'échantillons voilà, qui sont présents au laboratoire. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et puis je finirai juste en disant que voilà, toutes ces références et la pigmentothèque a fait l'objet de plusieurs publications en collaboration avec pas mal de collègues un peu partout en France. Voilà, merci beaucoup.